Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Je choisis une femme en prenant des risques.
Cinextenso.
Non !
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démette la gueule.
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso, sur Divergence FM.
Alors on aura beau vous dire hein, que les loups ne s'attaquent pas à l'homme, qu'ils le reniflent à des kilomètres et qu'ils s'en méfient, voilà qu'Hollywood continue à prendre la fable du petit chaperon rouge au pied de la lettre. Ce que l'on entend ici, ce sont des hommes traqués par une meute de loups dans un décor des plus sauvages en Colombie-Britannique, au Canada. De la neige, quelques arbres, de grandes plaines, quelques arbres, de la neige et du blizzard quand on n'a pas de chance. C'est le décor du film Le Territoire des Loups, nouvel opus de Joe Carnahan, à qui l'on doit l'agence touriste, mais aussi le remarqué Mise à Prix. Alors si l'essentiel du film se passe dans l'hiver canadien, il commence en Alaska où John Otway travaille pour un groupe pétrolier. Son job, protéger les travailleurs contre l'assaut de bêtes sauvages, alors des loups mais aussi pourquoi pas des ours, des travailleurs qui quittent la misère rencontrée dans les autres états des USA. Tandis que les autres hommes s'abîment dans l'alcool et les bastons, lui prend un autre chemin. C'est plutôt un type mélancolique à qui on a affaire. On comprend assez vite qu'il veut en finir avec la vie, que son existence, avant de se retrouver par grand froid, n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors les images d'une femme, une voix off qui est la sienne, tentent de nous donner des indices par bribes. Que s'est-il passé ? On le devinera au fil du récit. Alors avant d'être interdit au moins de 12 ans, le film est rigoureusement interdit à ceux qui se coltinent une phobie des avions, car si nos hommes doivent se protéger des loups, c'est qu'ils subissent un crash comme on en voit rarement au cinéma, une vraie séquence qui mêle suspense latent et surprise avec son omniprésent, montage d'images de l'accident en train de se produire, semi-sommeil, perte de conscience, réveil halluciné, tout y passe entre réalisme et onirisme en ce qui concerne notre John Otway, interprété par Liam Neeson, qui a définitivement quitté le monde de Tatooine et des Jedi pour le Grand Nord.
Il n'est pas une seconde où je ne pense à toi d'une manière ou d'une autre. Je veux voir ton visage, sentir tes mains dans les miennes.
L'avion à terre, au milieu de nulle part, alors on pourrait penser à un nouveau film du genre Les Survivants du vol 917, Manu, qui n'existe pas mais que t'aurais bien aimé, hein, avec des délires anthropophagiques, pourquoi pas, non ? Mais nous ne sommes pas dans une série B. Le froid, la neige, le feu, les cadavres et les survivants, voilà le menu. Les pires phobiques du transport aérien donc penseront qu'il n'est pas vraisemblable de survivre à pareil crash, mais pourtant l'étude d'un certain nombre d'accidents d'avion permet de construire un scénario à peu près réaliste. On est même libre de décider qu'une majorité survivra. Mais ça ne nous donne pas la même histoire. Donc les scénaristes qui s'appuient sur une nouvelle ont donc décidé qu'ils seront peu, mais qu'au moins on prendra le temps de les voir, de comprendre au fil du récit ce qu'ils ont quitté pour une vie de travailleurs en Alaska. On aura le temps aussi, et c'est un minima, quand on place des hommes au milieu de nulle part, et que ça n'est pas Koh-Lanta, de se demander comment ces hommes vont réagir à l'événement et comment va s'organiser la survie. Qui va décider ? Aura-t-on affaire à la lutte du plus fort contre la plus forte tête ? Est-ce qu'on va laisser le pouvoir à celui qui prend les initiatives ? Mais la lutte du pouvoir n'est rien. Comparé aux dangers qui guettent ces survivants, des loups d'un grand gabarit ont décidé de mener la vie dure à ce petit groupe. À force de les tuer, John Otway a appris à les connaître. Ce qu'il dit sur leur férocité, largement prouvé par les images, ce qu'il raconte sur leurs habitudes, eh bien, va contraindre le groupe à suivre ses intuitions. Pendant tout le reste du film, c'est à une traque à laquelle on assiste, mais où les loups ne seront pas les seuls à être une menace. Le réalisateur Joey Carnahan parvient à insuffler à son récit une cruelle vraisemblance, si on met de côté que les loups ne sont pas des tueurs d'hommes, évidemment. Dans le territoire des loups se lient plusieurs figures hautement anxiogènes. Il y a cette nature, le froid, la neige, il y a ces bêtes qui sont très bien réussies, un peu grosses sûrement, mais quitte à mentir sur leur comportement, autant y aller à fond. Et puis il y a ces hommes qui se racontent un peu, qui luttent pour leur survie, qui peu à peu se choisissent partenaires, confidents, compagnons de galère. Ça n'est pas un film sur la solidarité, sûrement pas. Dans les territoires des loups, dont le titre original est The Grey, le gris, on perçoit une sourde mélancolie, la fragilité de la vie. Alors vous me direz, pas besoin de loups pour s'en convaincre, mais les loups sont des personnages quasi secondaires, quoique bien utiles à l'attention, ce sont des révélateurs pour notre personnage principal. Le territoire des loups réussit son pari et nous tient en éveil avec les ingrédients de la surprise et du suspense et avec une belle esthétique, tournée dans des conditions réelles et forcément épouvantables. Ce qui est rendu sur écran est convaincant et les loups, qui sont un mélange de marionnettes articulées et d'animaux réels, contribuent par leur réussite à nous laisser guider dans ce territoire hostile. Le territoire des loups est sorti la semaine dernière, il est encore projeté au Gaumont, Comédie et Multiplex, au Cinéma Royal, au CGR, et puis aussi du côté de Lunel à l'Athénée.
Cinextenso.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et on passe donc à Albert Nobbs de Rodrigo Garcia. Albert Nobbs est un majordome respecté pour le travail qu'il effectue depuis 30 ans dans un hôtel de Dublin. Albert Nobbs économise chaque jour la moindre pièce afin de s'acheter un commerce de tabac. Albert Nobbs sait que la crise qui frappe l'Irlande en cette fin de 19e siècle n'épargne personne et il s'accroche à son travail et à son rêve tout en espérant bien épouser l'une des jeunes servantes de la maison. Seul problème, Albert Nobbs est une femme.
Albert, monsieur Hubert Page qui travaille le matin nous demande si on pourrait l'héberger. Je lui ai dit que vous alliez le dépanner.
Que j'allais le dépanner, moi ?
Oui, vous, monsieur Nobbs.
Mais que Dieu me regarde. Vous êtes une femme ?
Donc vous mariez, n'est-ce pas, Nobbs ?
Ouais. Il t'a demandé de se promener avec lui ? Elle est bonne, celle-là. Il est malin, l'animal.
Voudriez-vous entrer ? De quelle façon y êtes-vous arrivé ?
Pardon ?
À vous marier. Un jeu d'enfant. Et vous pourriez en faire autant.
Après avoir interprété le rôle de Albert Nobbs au théâtre il y a 20 ans, Glenn Close a souhaité l'adapter en faisant appel au réalisateur Rodrigo Garcia. On retrouve par ailleurs cette essence théâtrale dans les monologues du personnage principal, difficilement crédible, c'est vrai, sur un écran de cinéma, mais qui permettent une introspection facilitée. Alors, on sent bien que Glenn Close joue ici le rôle de sa vie, mais bien que très appliqué à rendre son personnage convaincant, et malgré un maquillage récompensé aux Oscars, on n'y croit que moyennement. Rodrigo Garcia, quant à lui, semblait tout désigné pour réaliser puisque l'ensemble de sa filmographie est axé autour de la thématique de la femme. Mais il est d'habitude un réalisateur de l'anecdote, que ce soit dans Ce que je sais d'elle d'un simple regard, une comédie dramatique à sketch, Nine Lives, un enchaînement de 9 plans séquences, ou encore son récent Mother and Child, un film autour de 3 destinées. Livrer ici un film de 2 heures qui ne se penche que sur un seul personnage paraît donc dépasser ses capacités. Résultat, le film prend un peu la poussière. Et le manque de rythme achève une réalisation trop contemplative. Le point intéressant est que le film nous montre aussi une certaine idée de la crise, version 19e siècle, lorsque perdre son pouvoir d'achat signifiait mourir dans la rue et non pas faire ses courses à Lidl, dans un monde qui devient finalement progressiste par défaut, puisque les femmes doivent s'extraire de leur carcan social, travailler et même se marier entre elles, non pas par souci d'égalité, mais tout simplement pour survivre. Albert Nobbs demeure un film intéressant, bien qu'imparfait, On regrette que la question du transgenre soit plus un prétexte narratif qu'une question psychanalytique à creuser. L'homosexualité féminine y est abordée de façon délicate, pas du tout frontale, sans contourner pour autant le sujet, mais il est juste un peu dommage que le film explique sans arrêt le besoin de travestissement par un traumatisme causé par les hommes. Donc le film n'est pas débordant d'énergie, il relève quand même bien le défi de la reconstitution historique. Et surtout, il réussit à dégager une réelle émotion, bien qu'il soit en apparence un petit peu austère et que pendant 2 heures, ça s'étire un peu en longueur. Mmh. Voilà. Donc si ça vous tente, c'est toujours au Diago.
Cinextenso.
Parce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie.
Sur Divergence FM.
Alors que Star Wars, cette saga qu'on voudrait indémodable, va ressortir petit à petit en 3D, comme on donne un coup de polish sur sa voiture un dimanche ensoleillé, sort aujourd'hui sur les écrans, produit par les studios Disney, John Carter, un film de science-fiction qui annonce une éventuelle saga. Mais avant de tirer des plans sur la comète, voyons si le premier opus tient la route. Tout d'abord, parlons casting artistique. Aux commandes de ce John Carter, Andrew Stanton, repéré très vite par les studios Pixar, à qui l'on doit en co-réalisation Mille et une pattes, et Le Monde de Nemo, et le seul film qu'il ait réalisé seul, c'était Wall-E, dont l'animation et le scénario étaient pour le moins une réussite. Alors inutile de se lancer dans un film de science-fiction genre peu représenté au cinéma, si le studio ne met pas les moyens d'accomplir l'aventure qui est autant visuelle que scénaristique. Le dernier film de science-fiction marquant fut Avatar. Si l'animation était bluffante, le scénario l'était peut-être un peu moins, sans que ça gâche le plaisir, car ce qui prime, me semble-t-il, dans la science-fiction, c'est le monde qu'on propose. Alors Kubrick, avec son 2001 L'Odyssée de l'espace en 1969, tenait à représenter l'univers le plus fidèlement possible, compte tenu des connaissances scientifiques de l'époque. Ça faisait son petit effet, on ne s'en plaindra pas. Mais si on compare Star Wars en 1977.
Accelerate to attack speed. Draw their fire away from the cruisers.
Copy, Gold Leader.
Si on compare à 2001 l'Odyssée de l'espace. Eh bien, on sent bien le décalage. Hein. L'un tend vers la beauté et la métaphysique, quand l'autre tend vers le spectacle et la fantaisie. Alors d'après vous, quelle voie a choisi Disney ?
Mon cher Edgar, je me souviens du temps où je te prenais sur mes genoux pour te raconter des histoires extravagantes auxquelles tu avais la gentillesse d'ajouter foi. Aujourd'hui, tu es devenu un homme. Le temps et l'espace nous ont séparés. Mais malgré la distance, c'est à ce petit garçon aux yeux écarquillés que je demande une fois de plus de me croire. Cette fabuleuse histoire débute il y a 13 ans sur le territoire de l'Arizona, entre les monts Pinaleno et les portes de l'enfer.
C'est donc bien à une fabuleuse histoire que le studio de Mickey nous convie, et comme le dit John Carter dans une lettre qu'il remet à son neveu, son point de départ est sur la Terre, en pleine guerre de sécession, en Arizona. On y voit un John Carter, jeune, beau et rebelle, animé par une soif de l'or, mais surtout désireux de se mettre à l'écart de tout camp, sudiste, nordiste. Ça n'est plus son problème. La guerre ne lui a apporté que malheur. Ce qu'il veut, c'est être peinard et surtout ne pas être dépendant de quelqu'un. Et la première séquence où l'on nous dévoile John Carter est un mélange de prouesse au combat et de drôlerie, et du coup, lunettes 3D chaussées, le film devient tout de suite attachant. Mais comment réaliser un film de science-fiction en Arizona ? Va-t-on nous refaire le coup de cow-boy contre envahisseur ? Eh bien non. Après cet aimable prologue, la direction que l'on prend, c'est la planète Barsoom, avec son monde physique un peu particulier, genre gravité légèrement au-dessus de zéro, désert et créatures étranges, un monde dans lequel John Carter sera propulsé contre toute attente.
Tu l'as tué du premier coup. Je t'ai vu, j'ai compris que quelque chose de nouveau pouvait arriver dans ce monde.
Tu es John Carter le Terrien ?
Lui-même.
Nouvelle.
nouvelle menace de détruire notre cité.
Le combat ne me semble pas équitable.
Tu es très laid, mais tu es magnifique! Il va combattre pour nous!
Allons-y.
Ce n'est pas nous qui avons commencé. Mais ce soir, nous allons en finir!
Une fois, je suis arrivé trop tard. Cette fois, je serai là.
Tiré du premier livre du cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs, qui a aussi écrit Tarzan, le monde qu'on nous propose est tout de même proche de la Terre, disons qu'on y retrouve les mêmes enjeux, lutte de pouvoir entre deux peuples, des méchants, des gentils, recherche de la paix, et surtout des individus qui ressemblent à s'y méprendre à des hommes. À ceci près qu'ils ont des peintures sur le visage et qu'ils aiment beaucoup les shorts, surtout l'héroïne, la princesse déjà Tauris, grande brune hyper athlétique, qui a suivi tous les conseils minceurs d'un magazine féminin martien. Alors ça aurait été beaucoup trop simple de nous proposer un monde avec seulement des hominidés et juste notre héros catapulté sur Mars. Et sur Barsoom, enfin Mars, il y a aussi le peuple des Tarks, géants verts à quatre bras qui sont les premiers habitants que John Carter rencontre. L'animation de ces grands hommes verts est réussie, et là c'est tout le talent de Pixar qui est à l'œuvre. Des hommes verts qui vivent dans les montagnes, deux peuples blancs qui luttent pour le pouvoir, on a sur Mars une image de ce que Carter a quitté sur Terre avec la guerre de sécession, et les Indiens au milieu ou pas loin. Alors lui qui ne voulait pas se mêler de la guerre sur Terre, quand on lui demande de prendre parti, préfère botter en touche et tenter de rejoindre cette fameuse Terre sans trop savoir comment y parvenir. Quel sera le rôle de John Carter dans cette bataille qui s'annonce entre deux peuples martiens? Vous le saurez en allant voir sa fabuleuse histoire qui se déroule en 2h20, un poil longuette avec ici et là des petites digressions. Pour les enfants c'est un régal, tant l'animation est réussie. Pour les adultes et les parents, il faut laisser de côté son sens critique, oublier ce qu'on sait de la planète Mars, tout ce qu'on sait de Babel et des langues, car oui, notre John Carter converse en anglais avec tout le monde. Visuellement, le parti pris a été de mêler du vieux avec du neuf, pas d'hyper sophistication, sauf pour l'un des personnages clés du film dont je cacherai l'identité, mais une technologie donc assez rudimentaire. On est très loin de Star Wars, le modèle du genre. De même, on ne découvre pas un bestiaire incroyable de créatures venues de tous les systèmes solaires buvant des vers dans un rat de glauque, mais quelques bestioles attachantes et d'autres plus féroces. John Carter est pour petits et grands, un cran en dessous Avatar pour le monde qu'il propose et l'animation qui s'ensuit, mais reste un très bon divertissement, sans réelle fausse note, une fois qu'on a admis que tout cela est de toute façon rigoureusement invraisemblable. Voilà. Mais c'est entre le péplum, le western, enfin voilà.
Il y aura plein de suites, on suppose.
Je pense qu'il y aura effectivement un 2, voire un 3. Je crois que le 2 est déjà en production et j'imagine de toute façon que ça va très bien marcher pour ce John Carter.
Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Comme je choisis une femme, en prenant des risques.
Cinextenso.
Non.
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démate la gueule.
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso, sur Divergence FM.